Le dernier amour, 8. Il devait revenir pour notre mariage, fixé au mois de juillet. Malgré le désir que j'avais de revoir cet aimable enfant, j'étais bien forcée de reconnaître que son absence était bonne à Félicie et à moi. La vie se faisait calme et belle. Félicie recommençait à modifier les côtés âpres de son caractère et à ouvrir son esprit à la science de l'amour. Car, si à l'âge de Tonino et de Vanina, il n'y a qu'à laisser faire le soleil et la loi divine, à l'âge que nous avions, Félicie et moi, et après de si amères expériences de la vie, il nous fallait toute une philosophie, toute une religion pour nous entendre. Ce moment de fusion intellectuelle et morale semblait venu. Et, lorsque nous nous engageâmes l'un à l'autre, j'étais fort, j'étais content d'elle et de moi. Je me sentais ardent et austère, je la sentais pudique et confiante. Notre lune de miel, à nous, ne fut pas un emportement d'écolier à travers les buissons en fleurs. C'était une solennelle moisson de joies intimes et profondes, sous le chaud et silencieux rayon de l'été. Nous avions dû nous marier sans attendre Tonino. La veille du jour fixé pour son retour, il nous avait écrit que Vanina avait fait une petite chute, et que, dans la crainte d'un accident plus grave, elle devait rester en repos pendant quelques semaines. Il ne revint qu'à l'entrée de l'automne, avec sa femme bien portante et en bon espoir de maternité. Il m'avoua alors qu'elle n'avait pas eu le moindre accident, mais qu'il avait craint de gêner Félicie par sa présence. « Je ne peux pas toujours m'expliquer, dit-il, les bizarreries de son humeur, mais je les sens, je les devine avant qu'elle se montre. » Et croyez-moi, j'ai bien fait de ne pas assister à son mariage. Il faut si peu de choses pour la troubler. Tout est mieux ainsi, n'en doutez pas. Je sentais que Tonino avait raison, mais pas plus que lui, je n'aurais su dire pourquoi. Il alla passer l'automne au Verwald et l'on se vit rarement. C'était le moment des grandes occupations de la campagne. On labourait les terres, on rentrait les fruits, on faisait le vin et les fromages, on se rencontrait dans la campagne avec plaisir, on se réunissait quelquefois le dimanche avec affection. Mais on ne se sentait plus nécessaires les uns aux autres. Et je dois dire que je me trouvais très heureux de n'avoir personne entre ma femme et moi. C'était un esprit trop impressionnable pour prendre la vie en douceur. Les violentes émotions de sa jeunesse lui avait laissé l'habitude de dramatiser le moins d'incidents et de voir un abîme ouvert dans toutes les ornières du prosaïque chemin de l'existence. Mon ascendant faisait rentrer en elle la notion de la mesure des faits. Mais c'était un soin continuel à prendre, une éducation toujours à refaire, une sérénité à ramener ou à entretenir, travail ingénieux et tendre dont je ne me lassais pas, et dont elle me témoignait une reconnaissance passionnée, mais qu'il ne fallait pas laisser interrompre ou troubler par la moindre émotion venue du dehors. Dans les commencements, elle se créa un chagrin inattendu. Autant elle avait aspiré à la réhabilitation par le mariage avec un homme sérieux, autant elle en fut effrayée quand elle l'eut obtenu. Il lui suffisait d'un mot surpris au passage pour la mettre au désespoir. « Elle est bien heureuse, mademoiselle Morgeron, après ce qui lui est arrivé. » Ou de la réflexion toute crue de quelques voisins, « Dame, c'est un beau mariage qu'il fait là, monsieur Sylvestre. » Elle ne se vengeait pas, comme moi, par un sourire de pitié de l'inoffensif attentat commis sur nous par une pensée brutale. Elle s'alarmait et regimbait comme si l'offense fût tombée du ciel. « Je le vois bien, » me disait-elle alors. Les uns croient que la cupidité vous a rendu indulgent. J'ai beau leur dire que vous n'avez pas voulu avoir la moindre part à ma fortune, ils ne comprennent pas et ils ne croient pas. Les autres vous respectent, mais ils vous plaignent, et ma faute leur paraît d'autant plus énorme que vous me l'avez pardonnée. Ah, j'ai été une égoïste. Je n'ai pas prévu que l'opinion ne se rendrait pas, et que vous porteriez votre part de ma honte. J'ai eu bien tort, ami, de ne pas suivre mon instinct. Savez-vous que 100 fois j'ai failli vous dire « Aimez-moi et ne m'épousez pas. Je serai votre maîtresse et votre esclave. Je ne me sens pas digne d'être votre femme. »
Vous avez bien fait, lui disais-je, de ne pas me présenter cette lâche tentation. J'aurais cru que vous me jugiez capable d'y céder et que vous ne m'estimiez pas.
Vous êtes bien rigide. Quel si grand crime auriez-vous commis en me donnant votre amour sans me donner votre nom?
J'eusse manqué de foi envers votre frère et vous qui m'aviez accueilli comme un frère. Puis ces liaisons-là, Félicie, on pourrait excuser la jeunesse qui brise tous les freins sans en avoir conscience. Elles sont une honte pour l'homme dans la force de l'âge, surtout quand il n'y a pas d'obstacle entre lui et l'objet de sa passion.
Elle arrivait à comprendre que l'on pouvait allier la passion au devoir. Ce n'est pas sans peine qu'elle avait consenti à le comprendre. Du reste, je l'égayais. Je venais à bout de la faire rire d'un propos de commère ou d'une maxime de paysan avare. Il est bien certain que j'avais fait des jaloux, et que Sixte Mort particulièrement, bien qu'il ne fût pas un méchant homme, avait glosé sur notre mariage. Qu'est-ce que cela pouvait me faire? Je trouvais dans le témoignage de ma conscience une sécurité complète. Félicie en était jalouse et me le disait. J'avais bien de la peine à obtenir qu'elle se pardonnât le passé et qu'elle s'estimât assez elle-même pour laisser couler l'injure. Mais je réussissais à lui faire voir le côté ridicule de la médisance et à l'empêcher d'engrossir le côté odieux. En dépit de ces troubles passagers, nous étions heureux. Si Félicie ne réalisait pas l'idéal de sérénité et de charme intellectuel que j'avais pu rêver dans ma jeunesse, je ne le savais plus, je ne m'en souvenais pas. Il est un moment de la vie où l'on n'a plus d'exigence qu'envers soi-même. On sent le possible de la perfection puisqu'on l'adore, mais on en sent le difficile puisqu'on ne l'atteint pas soi-même. Cette poursuite du beau et du bien, toujours vaine malgré de grands et sincères efforts, rend indulgent pour ceux qu'on aime. On voudrait leur épargner les écueils où l'on s'est heurté, les épines où l'on se déchire encore, et l'on se fait humble à force d'ambition, doux à force de zèle. Certes, à cette époque d'adoption paternelle d'une âme orageuse et tourmentée, j'étais meilleure que je ne l'avais jamais été. J'étais, pour ainsi dire, meilleure que moi-même. Quand ma compagne me disait « Je ne vous savais pas encore aussi bon que vous l'êtes », je lui répondais en toute sincérité « C'est que je n'étais pas si bon avant de vous aimer autant. » Ce bonheur dura 2 ans. Il ne se compléta point pour moi par les joies de la paternité et, à présent, hélas, je remercie la destinée de m'avoir épargné un terrible sujet de trouble et d'incertitude. Félicie se flattait toujours de devenir mère. Un vieux médecin qui l'avait soignée dès son retour d'Italie et que je consultais sur son état général m'apprit que je ne devais pas entretenir de vaines espérances. En même temps, il m'engagea à ne pas trop en dissuader ma compagne. Ce rêve de la maternité et chez elle une passion. Faites attention au moral, c'est un esprit fortement trempé. Mais les idées sont fixes, les volontés exaltées, les instincts tenaces, et la force vitale ne répond pas à l'énergie qu'elle dépense. Je me suis étonnée de lui voir accepter la mort de son frère. J'aurais cru qu'elle y laisserait la vie ou la raison. À présent, je m'explique sa résignation et son courage. Elle vous aimait. Rendez-la toujours heureuse si vous voulez la conserver. Elle ne résisterait pas à un nouveau malheur. Croyez-vous donc que la privation de postérité soit pour elle un malheur sans compensation? Elle se soumettra en gardant ses illusions le plus longtemps possible. D'ailleurs, ceci est un détail.
J'appelle votre attention sur un ensemble de circonstances et je vous dis, faites-lui la vie calme si vous voulez qu'elle vive.
« Il faut vous expliquer, m'écriai-je. Nous sommes seuls et vous n'avez personne à ménager, car je suis un homme et je puis tout accepter, tout prévoir. Je dois savoir si quelque mal sérieux menace ma compagne, afin de le conjurer à tous les instants de notre existence. Parlez !»«
Eh bien, reprit-il, je vous parlerai comme un homme simple, mais expérimenté, doit parler à un homme intelligent et sérieux. Mademoiselle Morgeron a été longtemps entre la vie et la mort, par suite de malheurs et de chagrins que vous n'ignorez pas. Elle est depuis longtemps rétablie. Une volonté bien entendue et bien employée lui a créé des forces nouvelles. Mais, si on modifie une organisation, on ne la transforme pas dans son essence, et nous avons ici une organisation anormale. Je l'ai bien étudiée, et comme un type rare dans sa classe. Chez la plupart des gens de campagne, j'appelle ainsi, à quelque rang qu'ils appartiennent, tous ceux qui vivent en contact continuel avec la nature rustique. Le corps réagit sur l'âme avec une bienfaisante énergie. Le grand air et l'exercice leur donnent forcément le sommeil, l'appétit et l'équilibre intellectuel. Chez Madame Félicie, il en est autrement. Sa volonté est le seul foyer de ses forces physiques, et rien d'extérieur n'agit bien directement sur elle. C'est la disposition de son esprit qui la rend forte ou faible. En un mot vulgaire et rebattu, mais toujours vrai, la lame use le fourreau. Ne la faites pas trop réfléchir, et si elle a la velléité de s'instruire, ménagez l'entendement. C'est chez elle un puissant instrument de perception, mais ce ne sera jamais un magasin d'idées acquises où les choses se classeront dans l'ordre logique. Donnez l'essor à l'activité, l'aliment à la bonté et à la tendresse. Ne lui demandez pas d'être bien conséquente avec elle-même. Traitez-la comme un enfant dont on ménage les moyens de compréhension et dont on tâte les aptitudes. Elle n'a point de mal organique particulier, non. Rassurez-vous à cet égard. Mais voyez la mobilité de la physionomie à la moindre émotion. Tâchez le pouls souvent et reconnaissez que l'état fébrile se déclare avec une soudaineté inouïe sous l'empire de la plus légère excitation nerveuse. Surtout, cachez toute inquiétude, car elle vous cacherait tout symptôme. Elle a une puissance de réaction extraordinaire et je l'ai vue très gravement malade sans que personne s'en doutât autour d'elle. Apprenez à la voir avec des yeux clairvoyants qui savent cacher leur clairvoyance. Je ne connais personne de plus difficile à interroger et à soigner. Si, par hasard, elle avait un chagrin sérieux, ne vous demandez pas si elle est malade. Soyez certain qu'elle l'est. Elle travaillera comme de coutume, elle aura l'air de dormir et de manger, elle sera même gaie si elle craint de vous affliger, mais elle aura une fièvre violente, et elle la gardera tant que vous n'aurez pas fait rentrer dans l'esprit un rayon consolateur. Les prescriptions du médecin n'y feront rien, ou presque rien. Soyez donc le médecin de votre femme. Moi, je suis un ami, et non un charlatan. » Cette conversation laissa en moi une certaine inquiétude, et durant plusieurs jours, j'observai Félicie avec une attention plus grande. Je ne découvris rien qui ne me fût déjà connu. Son impressionnabilité datait certes du jour de sa naissance, et ce qui eût été maladie ou destruction pour moi était pour elle action et vitalité. De ceux qui comprennent de telles organisations, les médecins sont les derniers, surtout les vieux médecins instruits et raisonnables. Malgré eux, ils voudraient ramener la nature à la logique naturelle. Quoi de plus sage, mais il se trouve souvent que les types anormaux auraient besoin d'échapper au contrôle de la raison. Peut-être à la folie faudrait-il un traitement antirationnel. Pourtant, je m'efforçais de faire prédominer le simple bon sens dans l'esprit agité de ma compagne, et j'y avais mis tant de patience et d'adresse j'avais couvert les dehors de l'enseignement avec tant d'enjouement et de douceur que je croyais être arrivé au but. Comment expliquer le désastre qui m'atteignit au milieu de ma confiante sérénité? Le coup qui me frappa en pleine poitrine, le déchirement de ce voile du sanctuaire où reposaient ma foi et mes illusions. Un jour, Sixte Mort passa près de moi dans la montagne. Je savais qu'il avait assez mal parlé de moi, et il me sembla qu'il était embarrassé pour me saluer. L'âme, sans tache et sans reproche, sourit de ses attaques et n'en connaît pas la blessure. Je l'abordai le premier et lui demandai des nouvelles de sa famille. Il se troubla tout à fait, haussa les épaules et s'éloigna d'un air de dépit ou de dédain. Je restai où j'étais, le suivant des yeux. Il se retourna, fit un geste de menace, et puis quelques pas pour revenir à moi. Je l'attendis, il s'arrêta, et nous nous regardâmes dans les yeux. Lui, exaspéré, moi, surpris, mais tranquille. Tout à coup, il prit son parti, leva son chapeau, et, venant tout près de moi, il me tendit sa main, que je reçus dans la mienne, en regardant toujours l'expression de son visage. J'y vis du trouble, et point de perfidie. Je vous ai dit déjà qu'il était honnête homme, et je le connaissais pour tel. « Il vous est arrivé quelque malheur ?» lui dis-je. « Que puis-je faire pour vous ?»« Rien, » répondit-il. « Mais il faut que vous sachiez mes peines. Je ne peux pas m'empêcher de vous les dire. À vous que je n'aime pourtant pas. C'est plus fort que moi. Votre figure me commande le repentir. Et chaque fois que je vous ai rencontré, je me suis dit « Voilà un homme que j'ai méconnu parce que j'étais jaloux de lui. C'est de l'injustice, mais c'est ainsi. Quelque jour, je me confesserai à lui. J'y serai forcé par quelque chose de bon et d'honnête qui est en moi. » Et ça ne m'empêchera peut-être pas de le mal juger encore, car il y a aussi en moi quelque chose de méchant. Et cette chose-là, dont je rougis et dont je souffre, c'est l'amour que j'ai eu pour sa femme. « Cet amour-là est passé, » ajouta-t-il en voyant que j'attendais pour lui répondre un plus complet développement de sa pensée. « Je n'aime plus du tout Félicie. Je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi, vous le saurez un jour ou l'autre. » Vous pouvez donc me répondre franchement que vous me pardonnez d'avoir eu de l'humeur et que vous n'en avez point contre moi. J'ai eu de l'amitié pour vous, lui répondis-je. J'en avais encore, puisque je vous pardonnais dans mon cœur sans attendre vos excuses. À présent que vous avez eu le courage de rompre la glace, je vous estime davantage et suis certain, quoi que vous en disiez, que vous ne reviendrez pas à vos injustices. « Voyons, s'écria-t-il, étais-je tout à fait injuste? N'êtes-vous pas un drôle d'homme d'avoir épousé Mademoiselle Morgeron? On a dit dans le pays, c'est pour l'argent. Je l'ai dit aussi, sans le croire. Mais j'ai pensé que c'était par une de ces idées que l'on a à votre âge, et peut-être aussi au mien, car je ne suis que d'une dizaine d'années plus jeune que vous. Quelle idée ai-je donc pu avoir ? « Expliquez-moi ça, maître Sixte. » L'idée de vous dire « Voilà une fille très recherchée par des gens plus riches et plus jeunes que moi, et je veux être aimée d'elle. Je veux, par amour propre, être préférée à tous les autres. À son cousin, par exemple. »«
Son cousin ?»«
Oui, Tonino Monti, qui avait si longtemps compté être son mari, et qui a fait par dépit un autre mariage. » Ce qui ne l'empêche pas de regretter toujours la bourgeoise et d'être toujours envieux de votre bonheur. Félicie, c'est bien ça, elle. Voilà pourquoi elle ne veut pas le voir devant vous.
Vous vous trompez, Sixte. Nous voyons assez souvent Tonino, et ce que vous supposez sur le compte de notre cousin est aussi absurde que le sot amour-propre que vous m'attribuez.
Comme vous voudrez. Alors, vous avez épousé Mademoiselle Morgeron par amour ?
Et par amitié.
On est donc encore amoureux à 50 ans ?
Certainement, oui.
Et dans 10 ans d'ici, je serai encore amoureux de votre femme ?
Vous vous disiez guéri.
Je mentais. C'est-à-dire, il y a des jours où je le suis et des jours où je ne le suis pas.
Cela dépend de choses qui me tourmentent trop, puisqu'elles ne me regardent pas, et qui ne vous tourmentent pas assez, vous qui devriez les empêcher. »
Parlez, quelles sont ces choses?
Vous ne vous en doutez pas du tout?
Pas du tout.
Eh bien...
Il s'arrêta. La sueur perlait sur son front. Il se débattait contre quelque secrète angoisse.
« Monsieur Sylvestre !»
s'écria-t-il en me saisissant le bras avec force.
« Pourquoi est-ce que vous laissez vivre ce maudit chien d'Italien qui vous trompe? Êtes-vous un homme, oui ou non? Les gens comme vous qui ont reçu de l'éducation et qui ont vécu dans le monde des riches, sont-ils d'une nature autre que nous autres gens de campagne? Leur est-il commandé d'endurer des insultes et de laisser leurs femmes dans le danger de se faire montrer au doigt? Tenez, moi, je ne suis rien pour Félicie. Elle ne me doit rien et je ne lui dois rien non plus. Mais si j'arrive à découvrir qu'elle est coupable, je serai guéri de l'amour pour le restant de ma vie. Je mépriserai toutes les femmes et je resterai vieux garçon. Ça me fera un effet de voir Félicie menteuse et lâche, un effet à n'en jamais revenir. Et vous, vous êtes là, bien tranquille, un peu pâle, voilà tout, mais souriante encore et me regardant d'un air de pitié, parce que vous me prenez pour un méchant qui se venge, ou pour un fou qui a des visions. »
En effet, je le croyais en proie à quelque accès de démence. Il s'en irrita et me défia de venir m'assurer du fait.
« Quel fait ? » lui demandai-je.
« Il y a une demi-heure, » répondit-il en me montrant un massif de rochers.
« Ils étaient là tous les deux. Ils se cachaient. Le saviez-vous ? »
« Ce que je sais, c'est qu'ils ne se cachaient pas. Votre soupçon est offensant pour ma femme. Je vous défends de dire un mot de plus sur son compte. »
« Vous devez dire ça, mais vous allez voir s'ils y sont encore. »
« J'irai tranquillement pour le plaisir de les rencontrer et sans aucune crainte de les surprendre. »
« C'est ça, vous tousserez pour vous annoncer.
Eh bien, allez, faites comme vous voudrez. Soyez trompés. Qu'est-ce que ça me fait à moi? Je vous ai averti. J'ai fait mon devoir après tout, car c'est à vous que revenait le soin de punir Tonino. Vous ne voulez pas? Eh bien, je le punirai peut-être, moi, un jour ou l'autre. Il me tombera sous la main et je l'écraserai comme une mauvaise bête, car voilà 10 ans que je souffre de ses intrigues, et je suis à bout de patience. C'est lui qui a empêché Félicie de m'écouter, et c'est lui qui me fait rougir à présent de l'avoir tant aimée. Allez, allez, monsieur le mari, fermez les yeux, bouchez vos oreilles et dormez tranquille. Moi, je veillerai pour mon compte. »
Il ne me laissa plus lui répondre et s'éloigna hors de lui. Sa colère ne m'avait guère troublée, je le savais vaniteux et susceptible. Je ne le croyais jaloux que par amour-propre. Je connaissais son aversion pour Tonino, avec qui il avait eu récemment des discussions d'intérêt. J'avais si bien chassé mes soupçons et vaincu le passé, que je me dirigeais d'un pas et d'un cœur tranquille vers le lieu qu'il m'avait assez vaguement indiqué. C'était à une certaine distance de l'habitation et dans une petite gorge dont le sol appartenait précisément à la famille de Sixte More. La roche, très abrupte, se fendillait à pic le long du sentier. Il n'y avait pas là aucune grotte, aucun enfoncement pouvant servir de cachette ou seulement d'abri pour se reposer. En suivant ce sentier de chèvres, je fis le tour du massif. Il était absolument désert. Je pensais que Sixte avait rêvé ou qu'il avait voulu se moquer de moi. Je connaissais mal la localité. J'y avais passé maintes fois, je ne m'y étais jamais arrêté. Je montai doucement une pente gazonnée où je crus voir quelques traces de pas. Ces traces, déjà douteuses, disparurent entièrement. Je ne cherchais plus personne. L'endroit était beau, je gagnai le sommet du massif, et j'y cueillis quelques fleurs assez rares qui poussaient là. Je pensais à Tonino, qui m'aimait ardemment, à Félicie, que je me promis bien de ne pas troubler du dépit insensé de Sixte More. Je pensais aussi à moi, pour me demander si j'étais digne du bonheur que je goûtais.
Je ne pouvais pas me reprocher de l'avoir conquis avec insolence et de m'être réjoui du dépit des autres. J'éprouvais cette sorte de mélancolie des gens modestes dans leurs ambitions, qui demanderaient volontiers pardon aux hommes et à Dieu d'avoir quelque sagesse silencieuse et quelque humble prospérité. Tout à coup, je vis Félicie au bas du rocher, tournant avec rapidité le sentier qui s'enfonçait dans un bois de mélèze. Elle ne fit que paraître et disparaître. Mais c'était bien elle, et sa marche ressemblait à une course furtive. Le cœur me battit bien fort. Je m'en fis reproche, je me levai pour la rejoindre. Je n'osais l'appeler. Sixte Mort pouvait être quelque part aux aguets et me croire jaloux. Je me rassis sans bruit, et, supposant que j'étais observé, je recommençai à cueillir des fleurs et des herbes sans montrer la moindre agitation. Depuis un instant, j'étais observé en effet. Mais ce n'était pas par Sixte Mort, c'était par Tonino, que je vis tout à coup sortir d'un coude que le rocher faisait au-dessus de moi. Il m'avait vu le premier. Il avait eu le temps de composer son visage. « Que diable faites-vous là, mon père ?» me dit-il en souriant et en me caressant de son beau regard, limpide comme une source de montagne. « Tu le vois ?» lui dis-je. « Je cueille ces fleurs qui m'ont tenté. »« Cueillez ?» dit-il. « La cousine les aime beaucoup. Je passe quelquefois ici. C'est mon plus court pour aller vous voir. Et quand je lui emporte un bouquet, elle me dit toujours « Où prends-tu de si belles fleurs ?»«
Tu venais chez nous ?» repris-je. « Et il y a longtemps qu'on ne t'a vu. »«
Ah ! Que voulez-vous ? Avec des petits sur les bras, une femme qui sèvre l'un pour nourrir l'autre, je ne la laisse guère seule. »
« Et tu fais bien. Allons, viens voir ta cousine. »«
Elle va me gronder. »«
Pourquoi ?»«
D'abord, pour n'en pas perdre l'habitude, et puis parce que je ne lui ai pas donné signe de vie depuis un mois. »«
Eh bien, elle te grondera et elle te pardonnera. »
Nous suivîmes ensemble le sentier par où Félicie venait de fuir. Il était bien évident pour moi que Tonino ne pensait pas que je l'eusse aperçu. Mais l'avait-il aperçue lui-même? Savait-il qu'elle était venue là, ou qu'elle venait d'y passer? Il était si calme et si souriant que je ne pouvais croire à une trahison. Rien ne m'expliquait la présence de Félicie en ce lieu particulièrement sauvage. Mais sans doute ce hasard allait s'éclaircir naturellement dès que nous la rejoindrions. Tout en maîtrisant mon émotion, je marchais vite. Tonino m'arrêta à plusieurs reprises, sous différents prétextes très vraisemblables et d'un air très naturel. Tant il y a que Félicie était rentrée depuis au moins 10 minutes quand nous rentrâmes nous-mêmes. Elle avait eu le temps de changer de chaussures et de se recoiffer. Comme elle prenait ses soins tous les jours avant de se mettre à table, je lui demandai fort simplement si elle était sortie. J'attendais une réponse simple, vraie, plausible. Elle me répondit avec assurance par un mensonge. Elle dit non. Je répétai ma question comme si quelque distraction m'eût empêché d'entendre la réponse. Elle répondit non. Je sentis un vertige passer devant mes yeux et je ne sais quel frisson de mort dans tout mon être. Non, il n'y a pas qu'une mort, même dans cette courte vie que nous traversons. Nous mourons plusieurs fois. Nous périssons à plusieurs reprises. Notre être apparent reste le même, mais au-dedans de nous, une âme se détache, s'envole ou s'anéantit. Nous la sentons se glacer en nous et peser comme un cadavre. Que devient-elle? Va-t-elle nous attendre ailleurs pour s'ajouter à nos existences successives? Est-ce une chose usée, finie, qui ne servira plus ni à nous ni aux autres? Où vont-elles? Où vont-elles, nos amours passés? Qui me le dira? Elles deviennent des fantômes, des ombres, des larves, disent les poètes. Et quoi, n'était-elle rien? Ce monde qui s'efface de devant nos yeux n'a-t-il jamais existé?
Les passions sont-elles des rêves aussi vains que ceux du sommeil? Non, c'est impossible. Les rêves du sommeil sont l'action d'un moi inconscient et incomplet. Nos passions sont non pas seulement l'action fatale, mais encore l'œuvre voulue de tout notre être. L'entraînement les suscite, mais la volonté les poursuit, les connaît, les définit, les nomme et les satisfait. Nos passions, c'est notre esprit et notre cœur, notre chair et nos os, notre puissance réalisée, l'intensité de notre vie intime manifestée par notre vie physique. Elles aspirent à être partagées, elles le sont, elles agissent, elles deviennent fécondes, elles créent. Elles créent des œuvres, des actes, des faits accomplis, l'histoire, des choses belles, l'art, ou bonnes, des idées, des principes, la connaissance du vrai. Elles créent des êtres, des enfants qui naissent de nous, intellectuellement ou réellement. Ce ne sont pas des songes ni des spectres. Aux télépassions, l'homme n'existe plus. Et pourtant, une passion peut s'éteindre et nous ne mourrons pas. Ce serait peut-être trop beau de ne pas survivre à sa puissance et de partir avec ce qui nous faisait beau nous-mêmes, la foi. Il n'en est pas ainsi. Il faut, à plusieurs reprises dans la vie, se sentir brisé, dépouillé, perdu sans ressources et refaire connaissance avec soi-même comme avec un étranger. Il faut se dire, et parfois brusquement foudroyé, « Où donc étais-je tout à l'heure ? Et quelle est cette autre existence qui me saisit comme une attaque de paralysie ? Est-ce que je vais pouvoir vivre ainsi, sans ma pensée, sans mon cœur, sans la raison d'être que j'avais tout à l'heure et que je n'aurai plus jamais ?» Vous avez entendu parler des effets du curare, ce poison qui glace l'énergie vitale, sans ôter la conscience de la mort inévitable et prochaine. Je me suis senti pris ainsi dans une chape de plomb, dans un bloc de pierre, sans transition, sans avertissement, sans réaction possible. Tous les êtres humains ont passé par là et l'ont plus ou moins compris. Plaignez ceux qui se débattent en vain et croient s'étourdir par la colère ou l'ivresse. Plaignez encore plus ceux qui savent que certains poisons ne pardonnent pas et qui, dès la première atteinte, embrassent d'un regard lucide l'horreur de leur situation. Détrompé en un instant, je le fus sans retour et pour toute ma vie. Aussi, je ne vous promènerai pas à travers une série d'illusions ressaisies et d'espérances déçues. Comment je cachais la violence du choc qui me brisait, je l'ignore. Je ne m'en suis pas rendu compte, car je ne m'en souviens pas. Je me trouvais le soir devant mon bureau. Félicie et Tonino faisaient de la musique dans la salle au-dessous de moi. Je ne les entendais qu'à de rares échappées, comme si une porte se fût ouverte un instant et brusquement refermée entre eux et moi. Mais cette porte n'existait que dans mon cerveau. J'avais pris un livre que je touchais sans le voir. Un instant, je m'occupais à me demander des choses puériles. Pourquoi Félicie m'avait-elle fait un mensonge si stupide, quand il lui était si facile de m'en faire un si vraisemblable ? Elle eût pu me dire même jusqu'à un certain point la vérité. J'avais dans l'idée que Tonino viendrait aujourd'hui. J'ai été au-devant de lui, je l'ai attendu. Puis je me suis rappelée lors du dîner et je suis retournée sur mes pas, sans me douter qu'il était tout prêt. 5 minutes plus tôt, vous m'eussiez rencontré et nous fussions revenus tous trois ensemble. Que lui en eût-il coûté de me dire cela ? Et s'il s'était donné rendez-vous innocemment, que ne se laissait-il surprendre par moi, qui, depuis mon mariage, les avait 20 fois trouvés ou laissés ensemble sans m'en inquiéter ? Quelle fatalité pousse donc au mensonge, qui est le plus flagrant et le plus éperdu des aveux, les coupables auxquels notre confiance assurait l'impunité ? Cela me parut pitoyable. Je me pris à rire tout seul, d'un rire de mépris, douloureux comme un sanglot, et qui me fit tressaillir et regarder autour de moi comme si je m'attendais à voir mon double me railler et m'insulter. Mais j'étais seule. C'est bien moi qui avais ri. On eût pu m'entendre d'en bas,
si le violon de Félicie n'eût couvert ma voix. Elle jouait admirablement ce soir-là. Je l'écoutais un instant, et je me pris à rire encore, car tout mentait en elle, la musique comme le reste. Elle ne pouvait plus être autre chose que mensonge de la tête aux pieds. J'écrivis sur le bord de la table « Ton nom est mensonge ». Je l'effaçai. Toute manifestation me semblait indigne de ma fierté. Je cessai de rire, je cessai de pleurer, car je pleurais aussi par moments sans en avoir conscience. Je sortis de la maison, je regardai briller les étoiles, et chose étrange, tout à coup, je respirais. Il me sembla que je grandissais jusqu'aux astres, que je les touchais, que je palpitais de leurs flammes, que je tenais le monde et mon cœur dans chacune de mes mains, que j'étais fort comme Dieu, que j'étais heureux comme l'infini, que je chantais dans une langue inconnue. Que sais-je, j'étais probablement fou dans ce moment-là. Mais non, allez, je n'étais pas fou. J'étais surexcité, extra-lucide peut-être. Je voyais au-delà de ma vie individuelle la bassesse du mal et la splendeur du bien, ces deux pôles de l'âme humaine. Un crime venait de me plonger dans l'enfer des ténèbres, car les êtres humains sont liés par une terrible solidarité, et ceux qu'on aime particulièrement font en quelque sorte partie de nous-mêmes. En découvrant que les deux objets de ma plus tendre affection étaient gangrenés et pourris, j'avais senti la mort entrer en moi. La honte dont ils étaient couverts m'avait souillé. J'avais rougi et pâli, comme si j'étais le complice de leur chute. Le mal était déchaîné sur la terre. Il triomphait de tout, de moi comme des autres. Il n'y avait en ce monde que mensonge et brutalité. Puisque deux êtres que j'avais placés si haut dans mon estime et dans ma tendresse ne valaient-ils pas mieux que les derniers des sauvages, pouvais-je être assuré de moi-même? N'étais-je pas capable de descendre aussi bas? Quelle garantie pouvais-je désormais offrir aux hommes et à Dieu de ma propre droiture et de ma propre chasteté? Mais quand ce nuage se dissipa, quand le rayonnement des astres dans un ciel pur éclaira cette échelle de Jacob que tout homme un peu trempé aperçoit dans sa détresse et saisit avec enthousiasme pour fuir les monstres et leurs vomissements, je quittai la triste sphère où s'agitent les problèmes et les sophismes. Je montai vers la région du vrai, où le mal n'est plus que relatif et où son nom même ne signifie plus rien. Nous y monterons tous, épurés par le temps, l'expiation et l'expérience. Mais tous n'y monteront pas en esprit dès cette vie. Le royaume de Dieu, j'appelle ainsi le sentiment clair, enivrant et grandiose du beau et du bon éternels et infinis, n'est pas ouvert, même pour un instant, à ceux qui ne voient que des yeux du corps et qui ont méprisé la notion de ce qui est le bien et le mal pour leur espèce. L'homme ne possède pas le bien absolu. C'est pour cela qu'il s'abaisse dès qu'il le cherche en dehors du bien relatif qui lui est accessible. Il ne faut pas de déchéance morale. Il ne faut pas de fièvre malsaine et de satisfaction impudemment conquise entre l'élan de l'âme et son but mystérieux, sublime. Moi, j'étais pure, et d'un mot terre à terre, qui, au milieu de mon extase, me venait aux lèvres, je pouvais me résumer. Le mal qu'on me fait, je n'aurais jamais pu, je ne pourrais jamais le faire aux autres. En effet, la belle Vanina, 100 fois plus jeune et plus belle que ma femme, eût pu être apportée dans mon lit par les démons légendaires de la nuit, mes bras ne se fussent pas noués autour d'elle, ma pensée n'eût pas seulement effleuré la compagne de Tonino, et cela à 25 ans tout comme à 50. Je pouvais regarder dans mon passé ardent et viril, je n'y trouvais pas une souillure. Je n'avais pas à rougir d'une heure où l'animalité des sens l'avait emporté en moi sur la probité de l'âme. J'étais donc tout simplement un honnête homme. Il n'y avait pas de quoi s'enorgueillir sans doute, mais il y avait de quoi se consoler et sentir en soi une force patiente et une sorte de joie austère. Ces malheureux qui travaillaient à m'avilir avaient entrepris l'impossible. J'étais mon juge et le leur. Ils m'avaient lâchement volé mon repos, mon bonheur, ma poésie, ma croyance en eux, tout ce qui avait servi de base à ma nouvelle existence. Il ne leur restait plus qu'à m'assassiner. Pourquoi non? Se défaire de la Vanina et de moi eût été logique. Mais m'ôter une parcelle de ma valeur morale pour s'emparer aux yeux l'un de l'autre, voilà ce qu'ils ne pouvaient pas.